Deutsche Welle. Droits et libertés.
La Coupe d'Afrique des Nations se tient en ce moment en Guinée équatoriale, une occasion rêvée pour nous de se pencher du côté de ce pays dont on parle pas si souvent et où la situation des droits de l'homme n'est pas des plus reluisantes. Nous parlerons également de Raef Badawi, ce blogueur du site des Jeunes Saïdiens Libéraux est en prison depuis 2012. Il a été condamné à 10 ans d'emprisonnement, une amende conséquente et 1000 coups de fouet pour insulte aux autorités religieuses. Un châtiment corporel d'un autre temps qui lui est administré en plusieurs fois et en plus en public. Au micro, c'est Sandrine Blanchard. Bonjour à tous. Jusqu'au 8 février prochain, la Guinée équatoriale accueille donc la CAN 2015 en remplacement du Maroc qui a craint une arrivée sur son territoire du virus Ebola. En 2012, cette ancienne colonie espagnole était déjà co-organisatrice de la compétition avec le Gabon. Une bonne occasion pour le régime de Teodoro Obiang-Nguema, au pouvoir depuis 1979, de redorer son blason. Victor Nogueira d'Amnesty International.
En ce qui concerne les droits de l'homme et la situation politique, ce régime dictatorial est très répressif. Les opposants sont souvent la cible d'attaques. La façon dont la justice fonctionne dans ce pays est extrêmement critiquable. Il y a des exécutions sommaires et puis la liberté de la presse ou d'opinion sont réprimées.
Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent aussi les mauvais traitements dont sont l'objet les détenus politiques. La Guinée équatoriale, qui en mars 2014 a exécuté au moins 4 prisonniers, a suspendu la peine de mort 2 semaines plus tard, le temps de pouvoir entrer dans la communauté des pays de langue portugaise, équivalent lusophone de l'OIF pour la francophonie. La population de Guinée équatoriale ne profite, elle, pas de l'essor économique du pays, qui est pourtant riche en ressources naturelles. Sur le papier, le revenu moyen par habitant est plus élevé que dans la plupart des autres États africains. Et c'est vrai que les gisements de gaz et de pétrole rapportent beaucoup d'argent. Simplement, les sommes atterrissent plus souvent sur des comptes privés que dans les caisses de l'État. Et pour donner une idée de l'état des affaires dans le pays, l'index de ressenti de la corruption qui est publié par Transparency International plaçait en 2013 la Guinée équatoriale au 163e rang sur 177. Alors les festivités liées à la CAN sont un excellent dérivatif, comme l'explique Pedro Krupenski, qui est président de la plateforme des ONG portugaises, mais elles permettent aussi à la presse d'accéder pour une fois à ce pays si fermé qu'est la Guinée équatoriale.
Ces événements sont de la pure propagande, mais ils attirent quand même l'attention sur les autres facettes du pays. Nous espérons que les journalistes vont aussi parler de ça. Bien sûr, il y a des restrictions, mais s'ils le veulent, les journalistes peuvent trouver un moyen de parler des autres côtés moins visibles du pays.
En Arabie Saoudite maintenant, les droits des femmes sont souvent bafoués. On connaît par exemple l'interdiction qui leur est faite de conduire ou de faire du vélo, de parler à des hommes qui ne sont pas de leur famille. Mais en réalité, la quasi-totalité des droits de l'homme sont violés quotidiennement dans le royaume. Et l'histoire de Raef Badawi nous le rappelle. Raef Badawi, c'est un militant saoudien de 31 ans maintenant qui s'est engagé pour la liberté d'expression dans son pays. Il est aussi et surtout blogueur. Et suite à des publications critiques publiées sur son site depuis fermé, qui invitaient à des débats publics sur les questions religieuses notamment, eh bien il s'est fait arrêter, c'était en juin 2012, pour insulte à l'islam et nuisance à l'image des autorités saoudiennes. En appel, il a été condamné en 2014 par un tribunal de Jeddah à 10 ans de prison ferme, une amende d'1 million de rials saoudiens, soit près de 230 000 euros, et 1000 coups de fouet à recevoir en 20 séries de 50 coups en public. La semaine dernière, la séance de flagellation a dû être repoussée en raison de l'état de santé de Raef Badawi. En première instance, l'accusation avait envisagé de demander sa condamnation pour apostasie, un crime passible de la peine de mort en Arabie Saoudite. Écoutez ici un extrait du discours d'Elham Manea, elle est politologue yéménite, et c'est elle qui est venue retirer le prix Web Citoyen décerné par Reporters sans frontières à Raef Badawi en 2014.
Je pense que là, nous touchons vraiment le cœur de notre problème aujourd'hui, c'est vraiment la liberté d'expression. Il ne s'agit pas ici de conflit entre le Nord et le Sud, de conflit de civilisation, pas du tout. Nous nous battons vraiment pour cette liberté d'expression et d'opinion.
Un châtiment odieux, hideux, le cas Raif Badawi est devenu emblématique de la répression et du musellement de la liberté d'expression en Arabie Saoudite. De nombreuses ONG de défense des droits de l'homme dénoncent aussi le traitement réservé aux blogueurs. Parmi les organisations qui appellent à l'annulation de sa condamnation et dénoncent les violations des droits de l'homme dans le pays, Amnesty International Canada a lancé une campagne « Je suis Raif » sur les médias sociaux. À l'initiative de Béatrice Vaugrant, la directrice générale de la section francophone, avec qui j'ai pu m'entretenir.
Toute l'incohérence, surtout des derniers jours, c'est que nous avons eu un représentant de l'ambassade d'Arabie Saoudite qui faisait partie de la marche à Paris pour la liberté d'expression, au même moment où on a amnesté 50 premiers coups à Raif Badawi. Alors, nous avons aussi un État qui a signé la Convention contre la torture. Ce qu'il subit est clairement de la torture en droit international. Nous ne sommes pas une incohérence près en Arabie Saoudite. Vous savez, depuis des décennies, en Arabie Saoudite, on torture et on décapite. Évidemment, tout débat sur des questions religieuses est proscrit. Et pourtant, bien sûr, une certaine, je dirais, bienveillance des États occidentaux vis-à-vis de cet État-là, parce que c'est un joueur politique important, parce que c'est surtout un joueur évidemment économique avec le pétrole important et qui ne subit pas tout le blâme que pourrait subir et qui le mérite, bon, l'Iran ou la Corée du Nord, où il est plus facile de taper sur les doigts publiquement. Le cas de Raif Badawi est un peu plus compliqué en Arabie Saoudite pour obtenir du soutien international, mais on commence à voir certaines fêlures dans ce soutien qui se faisait toujours discret, où là quand même certains États ont pris publiquement position pour blâmer ce châtiment.
C'est ça, le Canada, l'Union européenne aussi s'est prononcée pour condamner. Simplement, on a l'impression quand même que quand il s'agit, vous le disiez, de l'Arabie Saoudite ou de partenaires économiques importants, quels qu'ils soient, de par le monde, la critique se limite souvent à une critique verbale.
Il faut absolument que nous continuions la pression. Évidemment, c'est un dossier d'urgence pour Amnesty International, pour beaucoup de sections dans le monde. Donc nous sommes vraiment en alerte, particulièrement ces jours-ci, parce que on entend bien évidemment parler de beaucoup de liberté d'expression. Donc c'est le moment d'appliquer nos croyances en la liberté d'expression. Ici, on a un beau cas de non pas « je suis Charlie » mais « je suis Raif ». Il faut absolument que on arrête cette bienveillance ou ces tons feutrés qu'on a toujours eu avec l'Arabie Saoudite. Le propre avocat de Raif Badawi s'est fait arrêter et est emprisonné. C'est absolument inhumain, c'est souffrant. Raif Badawi est dans un état de santé assez précaire, donc il ne pourra pas survivre à 19 autres séances. Et clairement, il y a encore beaucoup d'étapes, mais la première serait d'arrêter les coups de fouet et surtout de commencer à obtenir plus que des offuscations verbales dans des déclarations, il faut beaucoup plus de pression.
Alors justement, pour en revenir à cette pression, ce manque de mobilisation, on imagine bien que si les dirigeants occidentaux ne sont pas très empressés dans la condamnation de l'Arabie Saoudite, leur position changerait peut-être si l'opinion publique, elle, se manifestait un petit peu plus fortement. Comment expliquez-vous ce désintérêt relatif aussi des occidentaux pour des pays comme l'Arabie Saoudite où on entendait ces derniers jours des Nigérians, par exemple, qui n'étaient pas contents, qu'on parle beaucoup moins des violences de Boko Haram chez eux que des tueries à Paris.
Tout à fait. C'est vrai que, entre autres, malheureusement, les graves événements qui sont arrivés à Baga au Nigeria, on parle presque de 2000 civils qui ont été massacrés, sont passés complètement dans l'éclipse médiatique et on a des dirigeants africains qui défilaient à Paris et qui pourraient tout autant faire d'efforts pour aussi dénoncer ce qui se passe au Nigeria avec Boko Haram et aussi les autorités nigérianes qui ne sont pas en reste pour certaines violations de droits humains. il y a quand même un intérêt croissant. Je pense que c'est l'effort aussi des médias et nos efforts aussi de faire connaître le cas de Raif Badawi. Nous sommes quand même satisfaits ces dernières semaines de l'intérêt croissant. Au Canada, on a quand même près de 100 000 personnes qui ont signé la pétition, ce qui est pour quelqu'un en Arabie Saoudite, pour nous, un bon taux de réponse. Donc les gens commencent vraiment à s'offusquer de ce traitement, à s'offusquer des doubles discours, à s'offusquer de ce traitement de faveur que reçoit l'Arabie Saoudite par rapport aussi à nos pays occidentaux.
Et une dernière question adressée à la militante que vous êtes. Vous êtes bien obligée, Amnesty International comme d'autres ONG de défense des droits de l'homme, de recourir de plus en plus aux médias et aux médias sociaux pour propager les pétitions, les appels. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce type de mobilisation ? Parce que finalement, cybermilitant, faire un clic depuis son salon, ce n'est pas très compliqué. Est-ce que ça permet réellement d'agir, de changer quelque chose ? Ou est-ce qu'il faut, après, qu'il y ait une action réelle qui suive ? Parce que j'imagine, dans vos permanences, il n'y a pas plus de gens qu'il y a 6 mois.
Non, malheureusement, effectivement. Mais écoutez, sur la réflexion que l'on fait sur les médias sociaux et les droits humains, je crois qu'elle se résume au fait qu'il faut toujours des gens dans la rue. C'est clair. Ce que fait le travail des médias sociaux, c'est d'amplifier. C'est quand même un travail essentiel, mais pas suffisant. Il faudra toujours, toujours des gens dans la rue, des lettres qui sont écrites et pas un bout de clic. Donc maintenant, c'est complémentaire, c'est incontournable, mais il y aura toujours des gens qui prendront des risques énormes pour leur vie, pour leur santé, pour leur famille, parce qu'ils ouvrent une porte et qu'ils osent manifester et sortir dehors. Et ça, c'est important de le reconnaître et de les protéger. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. C'est la fin de ce magazine. Merci à Antonio Rocha pour les sons sur la Guinée équatoriale et à Béatrice Vaugrante d'Amnesty International Canada, section francophone. Pour télécharger ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet dw.de/français dans la rubrique « Nos podcasts ». Et puis pour nous écrire, toujours la même adresse, français@dw.de, sans la cédille à français comme d'habitude. Salut et à la semaine prochaine. She died without a whisper. There were 3 of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers of my prison.